Salut, c'est Ziad Malouf de l'Atelier des médias. Ce message s'adresse à celles et ceux qui nous écoutent via podcast. De plus en plus, à l'occasion de mes voyages ou des rencontres auxquelles j'assiste, je réalise que vous existez, que peut-être même vous êtes de plus en plus nombreuses, nombreux à nous suivre par abonnement à notre flux sonore, notre podcast. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous faire quelques retours par mail sur cette manière de nous écouter ou même d'écouter les autres émissions de RFI sur une application de podcast? Êtes-vous satisfait? Avez-vous des suggestions, des remarques? Notre mail atelier@rfi.fr. Autre demande, si vous avez quelques minutes, pourriez-vous écrire un avis sur iTunes, le plus grand distributeur de podcasts au monde? Cela prend quelques instants, mais permet de faire découvrir notre travail à d'autres audionautes. À celles et ceux qui nous écoutent sur les ondes, si vous n'êtes pas familier du podcast et que vous faites partie des 2 milliards de possesseurs de smartphones, de téléphones intelligents dans le monde, je vous suggère de télécharger une application dédiée comme Downcast ou Overcast sur iOS, les téléphones d'Apple, ou comme TuneIn ou AntennaPod sur Android. Une fois installé, il vous suffit de rechercher vos émissions préférées et de vous y abonner pour recevoir les derniers épisodes régulièrement. Plus possible par la suite de s'ennuyer quand on marche, quand on court ou qu'on bricole. On lance un podcast. Si vous avez des questions, bien entendu, c'est très simple.
Atelier@rfi.fr.
Très bien, Internet. Qu'attendez-vous de nous ?
L'Atelier des médias. La web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf, Simon de Creuse.
Et vous.
Dénoncer les abus, les dysfonctionnements, la corruption, l'incurie avec de courtes vidéos, c'est la spécialité de Vidéo Volunteers. Depuis près de 10 ans, cette ONG, agence de presse, forme un réseau de correspondants dans les villages, les villes et les provinces de l'Inde. Nous partons aujourd'hui à la rencontre de la fondatrice de Vidéo Volunteers et de plusieurs reporters villageois, citadins, pour mieux comprendre ce projet et sa portée. Vidéo Volunteers, la voix des oubliés de l'info, c'est un reportage en Inde de Combastin et Laurie Chanty à suivre dans un instant, juste après la chronique américaine de Marie-Catherine Beuth. Dans presque une heure, Francis Pisani nous emmène au Kenya pour saluer les 5 ans du iHub, l'espace monté par les amoureux de l'activisme et de la technologie.
http://atelier.rfi.fr.
Bonjour Marie-Catherine Beuth.
Bonjour.
Comment ça va ?
Ça va très bien.
Lundi, Marie-Catherine, l'équipe de GigaHome a annoncé que l'aventure de ce blog devenu groupe média prenait fin.
Oui, et la stupéfaction a gagné très rapidement les réseaux sociaux. Évidemment, Twitter en tête, personne n'avait vu venir la fin de GigaHome. Ce site d'actualité dédié aux technologies, respecté, apprécié, consulté par plus de 6 millions d'internautes. Le site qui quand même emploie 75 personnes, dont 16 personnes à la rédaction, qui donc depuis lundi ont appris qu'ils n'allaient plus avoir de travail. La raison annoncée par GigaHome, ils n'ont plus les moyens de rembourser leurs créanciers.
Et tout le monde a été étonné parce que ce site, cette aventure, était perçue comme une success story, une histoire à succès jusqu'à maintenant.
Oui, c'est vraiment le genre d'aventure dont on raffole, en particulier ici dans la Silicon Valley. GigaHome avait débuté comme un blog lancé par Om Malik et en 2006, il a quitté son travail chez Business 2.0 pour en faire une entreprise. Pour cela, il avait obtenu des fonds de capital risque et au fil des années, eh bien, le succès a suivi, du moins selon les critères en vigueur dans la vallée, plus de tours de table, le développement de rubriques toujours plus nombreuses et spécialisées sur le site, une activité d'analyse conseil qu'on faisait payer aux entreprises, des conférences couvrant un vaste éventail de sujets. Et l'an dernier encore, GigaHome avait levé 8 millions de dollars, ce qui devait aider l'entreprise à continuer son développement après le départ de son fondateur, qui se consacrait de son côté à l'investissement.
Qu'est-ce qui s'est passé alors ?
Alors, pour l'instant, on a très peu de réponses de GigaHome en direct. Cela dit, beaucoup d'observateurs se posent la question de ce qui s'est passé, notamment quel est le problème peut-être avec ce modèle d'un média financé par le capital risque, un modèle que de nombreuses récentes entreprises médias ont emprunté. Rappelez-vous, BuzzFeed, Vox et d'autres sont des entreprises qui ont obtenu de l'argent de fonds d'investissement plutôt que de générer leurs propres recettes en se tournant vers les annonceurs. une hypothèse, la qualité ne paye peut-être pas tant que ça. Gigahome était un petit peu à la traîne en termes d'audience en faisant des articles toujours de grande qualité et très réfléchis, mais à côté, des TechCrunch, Business Insider et Mashable faisaient beaucoup d'articles avec des titres accrocheurs qui marchaient beaucoup sur les réseaux sociaux. Une autre possibilité de l'autre côté du spectre est peut-être que le marché était saturé. Quand Gigahome s'est lancé en 2006, peu de grands quotidiens nationaux avaient une présence très forte et très diversifiée sur les sujets tech et innovation. Mais aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Le Wall Street Journal, le New York Times et d'autres couvrent abondamment tous ces sujets qui sont très populaires sur Internet. Alors, la dernière hypothèse, et qui va forcément intéresser tous ces médias qui se sont tournés vers le capital risque, c'est peut-être que le modèle ne fonctionne pas pour celui des médias. Pour une raison très simple, c'est que les investisseurs investissent de l'argent et veulent un retour assez rapide. Or, monter un média est complexe. Il faut parfois jusqu'à 10 ans pour réussir à prouver un modèle. Gigahome voulait ne pas devenir dépendant de la pression publicitaire, créer un modèle qui générait des revenus par les événements et par le conseil. C'est un modèle qui a peut-être remplacé la pression publicitaire par la pression des investisseurs.
Merci Marie-Catherine. Je rappelle qu'on peut retrouver tes billets de blog sur l'atelier des médias. On peut aussi te lire sur Étreinte Digitale, ton blog du Figaro. On peut enfin découvrir tes projets, dont NOD News on Demand sur l'App Store. À bientôt.
À bientôt.
RFI. Je suis sûr d'une chose. Twitter, les blogs, les médias enrichis. Toutes ces choses n'ont aucune profondeur. Elles ne dureront pas. Et je refuse de me laisser distraire par ce qui est à la mode.
L'Atelier des médias, une web émission participative pour la communauté des nouveaux médias.
Un grand problème en Inde, c'est la corruption. On dit quelquefois que peut-être 50% des fonds qui sont pour les pauvres, ils n'arrivent pas aux pauvres. Ils sont perdus dans la corruption. C'est pour ça qu'on fait les vidéos. C'est pas pour entertainment. C'est vraiment pour changer quelque chose.
N'attendez pas que les médias viennent à vous, devenez un média. C'est le message de Video Volunteers, une ONG indienne qui forme les populations des villages et des bidonvilles à la production de reportages vidéo. Ce projet a été lancé en 2006 par Jessica Mayberry, journaliste américaine qui avait travaillé auparavant pour CNN ou Fox News. Video Volunteers fonctionne comme une agence de presse. Elle s'appuie sur un réseau de 170 correspondants répartis dans tout le pays, un réseau qui s'appelle India Unheard. Video Volunteers, la voix des oubliés de l'info en Inde. C'est un reportage de Com Bastin et Laurie Chanty, mixé par Simon de Creuse.
Je m'appelle Radhika Chincholikar du district d'Hingoli, dans l'état du Maharashtra. Je travaille sur les atrocités liées aux questions de genre et de droits de l'homme au sein du réseau India Unheard de Video Volunteers.
Je m'appelle Dinkar Kamble, district de Kolhapur, dans l'état du Maharashtra. Je fais des reportages sur le développement, les conflits liés à la technologie et l'éducation pour le réseau India Unheard.
Je m'appelle Rajesh Godé, du district de Bed, dans le Maharashtra. Je fais des reportages sur les atrocités liées au caste, l'éducation et le droit à la terre.
On est arrivé à Anjuna, au nord de l'état indien de Goa, et on s'apprête à entrer dans les locaux de l'ONG Video Volunteers pour rencontrer sa directrice Jessica Mayberry.
Alors Video Volunteers, c'est comme une agence de presse pour des gens ruraux. Dans l'Inde, 70% des gens vivent dans les villages, ils vivent dans les endroits ruraux. Mais chaque jour, il y a seulement 2% de la presse qui parle des problèmes des gens des villages. Alors, c'est un grand problème de marginalisation pour des gens. Ça, c'est le problème contre lequel on bute. Notre organisation, c'est comme une agence de presse pour des gens ruraux. On a à peu près 200 gens qui font des vidéos dans leur village. Tout le monde vient des communautés exclues. Ils sont des Dalits. Ce sont les intouchables. ils sont musulmans, ils sont des tribaux, ils viennent des populations indigènes, indigenous populations de l'Inde. On identifie ces gens, on les apprend à faire des vidéos pendant une training qui dure pendant 2 semaines. On les apprend à raconter des histoires en parole et aussi en vidéo. On les apprend à utiliser le caméra, mais ça, en fait, c'est très facile. Ça prend 1-2 jours à apprendre à faire les vidéos. On les donne des leadership skills, de comment diriger les gens, de comment discuter avec des officiels, des gouvernements. Enfin, il y a une partie du training qui touche à comment s'asseoir dans une chaise. Parce que ce qui est normal, c'est que les gens, quand ils vont avoir les officiaux des gouvernements, ils veulent qu'ils s'assoient sur la terre. Alors on les apprend à non, 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 vous êtes égal à eux, vous allez vous asseoir sur la chaise. Ce sont des choses vraiment qui touchent à leur puissance. Après ces 2 semaines de training, on leur donne de l'équipement, on leur donne des petits appareils de photos, des petites caméras et des tablettes. Ils rentrent à leur village avec leur équipement et avec beaucoup d'idées, d'histoires qu'ils veulent faire.
Now, because videos are cheap, it's possible to place the instrument with the very recording device of the video in the hands of communities to make their own stories. And that's possible today.
On a choisi le vidéo parce qu'il faut pas savoir lire pour faire du vidéo. Alors, comme en Inde, il y a beaucoup de literacy dans les pays, mais les gens, tout le monde aime voir les films et tout le monde peut faire les films. C'est pour ça qu'on a choisi le vidéo.
With video, you could show who these people are, what their emotions are.
On a 170 correspondants. Ils sont en 23 des 33 États de l'Inde. Ils font à peu près 2 vidéos chaque mois pour nous. Ce sont des vidéos de 2-3 minutes. Ils sont faits au style de l'Internet. On veut être dans les endroits où les gens sont les plus pauvres, où il y a le plus de conflits. Parce qu'on pense que dans les situations du conflit, c'est là où les gens ils ont le moins de voix.
Laissons Jessica pour le moment pour partir à la rencontre de Sulochna Pednekar, qui réalise des vidéos pour Video Volunteers. Avant cela, je regarde un de ses films tournés à l'hôpital du Goa Medical College.
Goa Medical College is the main tertiary hospital providing medical treatment facilities in Goa.
Le reportage s'appelle Patient en danger, stop au mauvais traitement dans l'hôpital de Goa. On y voit son oncle diabétique allongé sur le lit d'hôpital. Il vient d'être admis pour des injections régulières d'insuline. Il explique que les infirmières refusent de lui faire des injections et obligent sa femme à les administrer. Sulochna est révoltée par la situation. Elle va interviewer 2 surveillantes de l'hôpital. On les voit assises à un bureau, gênées par l'intrusion de la caméra et par les questions de la reporter.
I understand, sister, that they have to do it. But is there a difference in within the ward also that in one ward you are teaching and another ward sisters are delivering this care?
No. It should not be that way. It is wrong.
Les deux femmes défendent les infirmières et confirment que les infirmières peuvent bien demander aux proches de pratiquer des soins. Sulochna ne s'arrête pas là. Elle écrit à la direction. À la fin du reportage, on voit une lettre de réponse de l'hôpital confirmant qu'il est anormal que les infirmières n'administrent pas les injections. Sulochna appelle enfin les patients qui ont rencontré le même problème à le signaler aux responsables hospitaliers.
This is Sulochna Pendekar, reporting from Bambolim, Goa, for India on Earth. My name is Sulochna Pednekar and I am from Goa.
Je m'appelle Sulochna Pednekar. Je suis de Goa, où je suis née et où j'ai grandi. Je travaille sur les problématiques de santé. Par exemple, à l'hôpital du Goa Medical College, qui fournit des traitements aux malades. Lorsque j'ai emmené mon oncle pour un traitement, j'ai réalisé qu'il y avait des problèmes rencontrés par les autres patients. Les infirmières refusent d'administrer les injections, elles demandent aux proches de faire les piqûres. C'est un problème pour les familles et on ne savait pas comment réagir et où se plaindre. J'ai donc décidé de faire une vidéo là-dessus pour pouvoir me plaindre aux autorités et leur montrer ce qui se passait dans ce service. De la même manière, lorsque les patients sont admis à l'hôpital, ils ne reçoivent pas de linge propre. Dans tous les hôpitaux publics, l'établissement est censé fournir du linge aux patients. Or, ce n'est pas le cas. L'hôpital demande aux proches d'aller chercher du linge propre. Mais parfois, la maison est très loin de l'hôpital et ils n'ont pas les moyens d'en acheter. C'est ce type de problème auquel les gens sont confrontés et qui doivent être rendus publics. Personne, à part nous, ne parle de ces difficultés.
Comment est-ce que vous êtes entré en contact avec Video Volunteers ?
Je travaillais à l'époque avec une ONG et j'ai reçu un mail à propos d'une annonce de Video Volunteers. Ils cherchaient un correspondant au nord de Goa, où je réside. À l'époque, je faisais déjà des vidéos de sensibilisation dans le cadre d'un programme d'émancipation de la femme. J'avais donc les compétences en vidéo, mais je ne m'en servais pas pour informer l'extérieur afin de résoudre les problèmes dont souffrent les communautés. C'était de la sensibilisation, par exemple sur l'hygiène menstruelle, et les vidéos s'adressaient aux populations cibles et non à l'opinion ou au pouvoir public. Quand j'ai vu l'annonce, j'ai décidé de postuler, mais ils ne cherchaient pas des profils aussi qualifiés que le mien, plutôt des gens ordinaires des villages. Je les ai convaincus sur la base du travail que j'avais déjà accompli au sein des communautés. Ils m'ont accepté et m'ont demandé d'assister à leur formation.
Qu'est-ce que vous avez montré dans ces vidéos et comment est-ce que ça a impacté Goa ?
Lorsque je réalise mes vidéos, mon intention c'est que les gens la voient et qu'ils comprennent que s'ils ne parlent pas, s'ils ne se manifestent pas, personne ne va changer la situation. Lorsque je leur montre une vidéo qui a eu un impact positif, dans laquelle les gens ont raconté leurs problèmes, que je leur explique que cette vidéo a été vue par les pouvoirs publics et que cela a permis une prise de conscience, cela incite les gens à rompre le silence, parler de leurs difficultés pour changer les choses. L'autre avantage de la vidéo, c'est que cela montre exactement comment les choses se passent quand les autorités ont le dos tourné. Si vous dénoncez sans montrer, le risque est que les responsables viennent faire une inspection. Tout a été arrangé pour cacher les dysfonctionnements. Pour moi, la vidéo est un média très puissant qui permet aux plus faibles de faire entendre leur voix et d'œuvrer pour le changement.
Jessica, avant d'arriver en Inde, votre carrière de journaliste, elle a commencé aux États-Unis.
Oui, quand j'ai fini l'université à Oxford, où j'ai étudié le français, l'histoire, c'est comme ça que je parle français. Après l'université, je suis allée à New York pour travailler dans les médias. Je travaillais à CNN, à Fox News Channel, à Court TV, comme une associate producer. En 2001, je travaillais au Fox News Channel et la guerre du Golfe a commencé. Et je pensais que c'était vraiment fou que mon pays, les États-Unis, qu'on donnait des bombes sur des pays, mais les médias, ils ne pensaient pas qu'ils devaient expliquer comment commençaient les cultures de ces pays. Alors, je décidais que j'allais aller en Inde pour voir comment c'est un peu les médias dans des pays qui développent.
Qu'est-ce que vous faites en arrivant en Inde pour travailler dans les médias ?
Je travaillais dans une grande ONG à Ahmedabad, en Gujarat, et j'apprenais le vidéo à des femmes des bidonvilles pendant 9 mois. On a commencé Video Volunteers en 2006. On avait une vision d'une média locale pour des gens des villages. Et au début, c'était très difficile de trouver des fonds pour commencer. Tout le monde, il pensait que le média, c'est un luxe. Pourquoi est-ce qu'on donnerait de l'argent pour que les gens font des films? Qu'est-ce que ça peut changer? Dans le cours de 2 mois, on a trouvé 6 ONG qui nous ont donné beaucoup, beaucoup d'argent, à peu près 30 000 dollars chaque ONG pour commencer notre programme. Alors, il disait vraiment qu'on pense qu'en ce moment, en Inde, ce qu'il faut, c'est que les gens puissent avoir une voix. On a déménagé à Goa en 2008. Maintenant, on est à Goa, on a à peu près 20 gens qui travaillent dans notre bureau ici et à peu près 10-15 gens qui travaillent dans nos bureaux dans 8 états de l'Inde.
Courte pause dans l'atelier des médias, on se retrouve dans un instant.
Atelier des médias sur Radio France Internationale. Nous sommes aujourd'hui en Inde pour découvrir le travail de Video Volunteers. Depuis 2006, cette ONG fondée par l'américaine Jessica Maybury forme des villageois et des habitants de bidonvilles à la réalisation de courts reportages afin de dénoncer les injustices et les dysfonctionnements du quotidien. Comme Bastin et Laurie Chanty sont allés rencontrer les membres de Video Volunteers pour mieux comprendre leur travail et sa portée.
L'atelier des médias, la web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf, Simon de Creuse.
On est maintenant à Nashik, une ville moyenne du Maharashtra, à 4 heures de train de Bombay. Ici tient la réunion trimestrielle des correspondants Video Volunteers de cet état. Ça fait 15 jours que 15 correspondants s'entraînent à la production de reportages vidéo entre les murs de ce petit appartement. On est en plein exercice. Napour, vous êtes journaliste, vous êtes formatrice pour Video Volunteers. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans cette session d'entraînement? Qu'est-ce que vous faites?
Nous sommes à Nashik et c'est une réunion trimestrielle où tous les correspondants de l'État du Maharashtra sont réunis. L'idée de ce rendez-vous est d'examiner les vidéos qu'ils ont produites ces quatre derniers mois. On a aussi ajouté une journée d'entraînement à la réunion consacrée à former les correspondants à produire des reportages sur la santé maternelle. Parce que la santé des mères est une question importante en Inde où la mortalité maternelle est très élevée. Et c'est pour cela qu'on travaille avec nos correspondants à les aider à produire des histoires sur cette problématique. Ce qu'ils ont fait juste à l'instant, c'est de raconter un scénario. Ils l'ont résumé en deux lignes et je leur demande quelles sont les personnes que vous allez interviewer durant votre reportage? Quelles images allez-vous tourner? Quel type de preuves pouvez-vous obtenir pour mieux présenter votre histoire et mieux la raconter?
Comment vous êtes-vous retrouvé impliqué avec Video Volunteers?
Nous sommes entrés en relation il y a 3 ans, alors que j'étais encore à l'université. J'ai fait un stage de courte durée chez eux. À l'époque, j'ai monté quelques vidéos. J'ai formé des personnes lorsqu'il y avait des formations. Et j'ai recruté des journalistes au sein des communautés villageoises dans l'état du Jharkhand. Après 2 années comme reporter pour un média grand public, j'ai décidé de rejoindre Video Volunteers parce que je me sentais loin du terrain dans cet autre travail de journaliste. J'ai le sentiment que Video Volunteers a un potentiel immense pour faire remonter les histoires qui ne sont pas entendues, pour faire entendre des voix différentes. Je pense que c'est ce qui manque essentiellement dans les médias indiens aujourd'hui.
Quelles sont les compétences que vous essayez de transmettre en priorité aux volontaires ?
Les compétences principales que nous essayons de leur inculquer sont le reportage. Pas seulement le reportage, mais aussi être capable de traduire une histoire en images. Parce que nous formons les gens des régions rurales à raconter leurs propres histoires avec la caméra. C'est la compétence principale. De la décomposition d'un reportage à la narration vidéo. C'est ce à quoi nous les entraînons. La principale difficulté que je rencontre pour former nos correspondants locaux, c'est que tous ces gens qui travaillent avec nous sont très au courant des problèmes sur le terrain. D'autant que ces personnes-là vivent la réalité dont ils parlent, contrairement aux journalistes qui vivent dans leur propre monde, puis parlent d'injustice et de problématiques avec lesquelles ils ne sont pas tellement connectés. Donc, même s'ils sont très conscients des problématiques et qu'ils ont cette sorte de légitimité, ce qui est dur, c'est de les aider à visualiser une histoire. Essayer de les aider à comprendre que tout ce que tu racontes, même si c'est au sujet de ta propre communauté, doit être appuyé par des preuves. C'est ce à quoi ils s'entraînent. À la fin de la journée, il ne s'agit pas seulement de savoir raconter une histoire, mais aussi de pouvoir avoir un effet sur le terrain. C'est donc très important que ton histoire soit solide, appuyée par des preuves. C'est seulement de cette manière qu'ils pourront influer sur la réalité.
Nanhe, 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 nan
cas, on entend souvent qu'il y a beaucoup de journaux en Inde, que la presse est plutôt libre dans la plus grande démocratie du monde. Mais vous, vous dressez quand même un tableau assez sombre de la liberté de la presse dans ce pays.
Il y a des choses vraiment impressionnantes en Inde en ce qui concerne le média. Par exemple, il y a plus de chaînes en anglais en Inde que dans tout le reste du monde. Aussi, c'est un pays où les journaux, ils arrivent à gagner plus d'argent. Chaque année, il y a encore des gens qui apprennent à lire et qui lisent les journaux. Mais le grand problème, c'est que ça devient un média entièrement des classes moyennes. Ils sont convaincus que leur business model, c'est seulement de parler aux gens des classes moyennes. Et ils n'ont pas d'intérêt à parler aux autres gens. Et ça, enfin, c'est un média qui mimique les médias des États-Unis ou de l'Europe. Mais de faire ça, exactement la même chose dans un pays où 70% des gens, ils sont toujours pauvres, ça, c'est quand même, c'est ridicule. Comment c'est dans les villages? C'est que les gens, maintenant, ils ont accès à toutes ces chaînes. Alors, les pauvres, ils mettent leur télé, ils voient la politique, ils voient les lifestyle programs, ils voient les célébrités, les Bollywood stars et tout ça. Il y a une anger.
Une frustration.
Il y a une frustration que nous, on est où? Il y avait une recherche qui est sortie la semaine dernière qui disait que dans les grands médias, 90% des directeurs sont des upper castes. Leur partie de la population, c'est seulement 8%. Alors, il n'y a aucune diversité, il n'y a pas une média qui réponde aux besoins des pauvres. Et ça, c'est ça ce qu'on veut changer.
Film de Video Volunteers, publié le 15 octobre 2010. Son titre est « Préjugés de genre dans les salaires ». On voit son auteur, la jeune Rohini Pawar, à la campagne, devant un champ. Au loin, des fermières sont en train de labourer. Devant la caméra, Rohini déclare « Même au XXIe siècle, les femmes sont considérées comme moins importantes que les hommes ». Elle interviewe ensuite plusieurs fermières qui disent travailler pour moins d'un euro par jour dans les exploitations agricoles. Elles expliquent également que les hommes sont payés plus du double alors qu'ils font un travail moins fatigant. L'une d'entre elles ajoute qu'en plus, elles doivent également s'occuper des tâches domestiques à la maison, comme la cuisine et le ménage. Pour conclure, Rohini appelle à ce que les deux sexes soient rémunérés de la même manière.
RFI.
Rohini, quels sont exactement les problèmes auxquels vous vous attaquez dans vos vidéos ?
J'ai récemment fait une vidéo sur Devdasi. Il y a une tradition dans les villages, dans celui de Jezuri, pas loin de chez moi, où des petites filles de 5 ans sont consacrées au temple. Elles sont mariées aux dieux et ne peuvent se marier avec des hommes et vivre leur vie comme elles l'entendent. J'ai fait une vidéo sur ce que c'était d'être une de ces femmes, quels étaient leurs rêves, quels choix elles voulaient faire. J'ai monté un réseau autour de ces questions d'enfants mariés qui réunit 500 à 1000 femmes. L'objectif est de sensibiliser le gouvernement à leur situation afin qu'elles puissent vivre comme les autres. La vidéo me sert à faire cette sensibilisation.
Rohini, qu'est-ce que vous avez montré exactement dans vos vidéos et quel impact elles ont eu sur les populations que vous cherchez à défendre ?
Dans mes vidéos, j'essaie de parler des problèmes qui sont habituellement passés sous silence. J'ai fait une vidéo qui a eu un impact récemment, qui montre que des femmes qui travaillent dans les fermes touchent un salaire inférieur à celui des hommes qui font le même travail. Durant les récoltes, j'ai mobilisé les travailleuses des fermes pour qu'elles ne reprennent pas le travail tant qu'elles ne sont pas payées correctement. Comme les récoltes devaient être faites, les propriétaires de fermes ont eu peur de perdre beaucoup d'argent et ils ont été d'accord pour donner le même salaire à tout le monde.
Et quel rôle a joué la vidéo dans ce combat pour l'égalité salariale ?
J'ai commencé à travailler sur cette problématique à partir de la vidéo. Je suis allée dans les champs, j'ai interviewé ces femmes et ainsi j'ai pris connaissance de leurs problèmes. Je crois que grâce à la vidéo, ces femmes se sont rassemblées avec moi. Elles ont vu que grâce à la vidéo, nous pouvions raconter nos problèmes aux gens.
Jessica, est-ce que les grandes télés indiennes reprennent parfois les vidéos que vous faites avec Video Volunteers ?
Oui, les grandes télés, ils prennent quelquefois nos vidéos. On a eu quelques succès. On a eu, par exemple, il y a 4 ans, on a eu un programme d'une demi-heure sur une chaîne très, très majeure, très populaire. On avait un programme d'une demi-heure chaque semaine et ils nous donnaient de l'argent. Alors ça, c'était vraiment génial. Maintenant aussi, on a une partnership avec DoorDarshan. C'est comme le BBC de l'Inde. C'est la chaîne du gouvernement. Et avec cette chaîne, on vient dans toutes les télévisions de tous les États où on travaille. Ça aussi, c'est génial. On a aussi une partnership avec CNN de l'Inde. Ça s'appelle CNN-IBN. Mais c'est vraiment pas facile. Les stations de télé, ils s'intéressent seulement aux problèmes de la politique, aux problèmes des gens urbains. Alors, c'est pas du tout facile de leur convaincre que ces histoires sont importantes. Parce que nous, on travaille sur les petites histoires. Pour donner un exemple de ça, on fait beaucoup de travail sur la mortalité maternelle. L'année dernière, 56 000 femmes sont mortes dans la maternité. Mais il n'y a aucune histoire sur ça. Parce qu'il y a tellement de gens qui meurent qu'il n'y en a aucune qui est une histoire. C'est pour ça qu'on fait notre travail. Parce que pour nous, chaque femme qui meurt, elle est une histoire.
Et du coup, toutes ces vidéos qui ne sont pas reprises par la télévision, comment elles sont utilisées? Comment est-ce qu'elles sont diffusées?
On les met sur l'Internet, sur le Facebook. J'espère que les gens qui écoutent ce programme, que vous allez voir un peu ce qu'on fait sur le Facebook. Mais premièrement, ils les montrent dans leur village. Alors, ils leur montrent quelquefois sur des grands widescreen projectors, comme des écrans des cinémas qu'ils montent dans les villages. Et enfin, les gens, ils adorent ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à faire les soirs dans ces villages. Alors, tout le monde aime voir soi-même. Ils viennent, ils discutent sur ces sujets que les gens, ils ne discutent jamais.
Mumbai, mein alpasankhya mein Christian log rehte hain aur main bhi ek Christian hi hu. Jab main mere Christian samshan bhumi mein gaya, tab wahan pe dekha ki nal hai par nal mein pani nahi hai.
Dans cette vidéo intitulée De la mort à l'abandon, Amol Lalzar explique devant la caméra qu'il fait partie des chrétiens de Bombay. Il nous montre des images du cimetière chrétien du bidonville de Govandi. On voit des détritus et des os au milieu des tombes. Amol explique qu'il n'y a pas d'eau, pas d'électricité. Il filme des bâtiments dans un très mauvais état. Il interviewe plusieurs visiteurs du cimetière qui se plaignent de l'absence de toilettes et d'eau potable. On voit quelqu'un qui apporte des seaux d'eau à la main, puis des images d'un enterrement. Le gardien se plaint de l'absence de ramassage des poubelles par la municipalité. Il explique que des employés municipaux ont promis plusieurs fois qu'ils allaient faire quelque chose, mais que rien ne se passe. La mairie fait la sourde oreille, conclut Amol Lalzar à la fin de la vidéo. On a beaucoup parlé du travail engagé par Video Volunteers pour former des correspondants vidéo dans les zones rurales de l'Inde. Mais l'ONG travaille aussi dans les grandes villes, où de nombreuses zones sont également ignorées par les journalistes et privées de couverture médiatique. Exemple à Bombay, la plus grande ville d'Inde, où s'entassent quelques 30 millions de personnes, dans des immeubles pour les plus chanceux, au sein d'habitations de briques et de braques pour les autres. On est avec Amol, dans l'immense bidonville de Govandi à l'est de Mumbai. Amol, est-ce que vous pouvez nous parler de votre quartier ?
Nous sommes dans le bidonville de Govandi. C'est le deuxième plus grand abattoir d'Asie. C'est ici que tous les moutons, les chèvres et les bœufs de la région sont tués et dépecés. Les corps sont coupés ici, puis ils nourrissent toute l'Inde et même le Pakistan. Beaucoup de personnes vivent dans ce bidonville. Ils travaillent à leur compte, ils vendent des fruits et légumes ou font commerce de cigarettes. Ils se débrouillent tout seuls. Le gouvernement ne les aide pas du tout. Il y a beaucoup de castes ici. Certains sont hindous, certains sont musulmans, certains sont chrétiens. Quand il y a un festival dans une communauté, ils le célèbrent ensemble et ils vivent en paix.
Amol nous a donné rendez-vous dans un cimetière chrétien de Govandi, envahi par les corbeaux. Amol, quel a été le problème auquel vous avez voulu vous attaquer avec vos vidéos dans ce cimetière ?
Lorsque je suis arrivé ici, j'ai vu qu'il y avait des cadavres et que les gens pleuraient. Il n'y avait pas d'arrivée d'eau et j'ai voulu en amener une dans ce cimetière. Le gardien du cimetière devait aller dehors et remplir un seau et puis le ramener pour avoir de l'eau. J'ai décidé de faire une vidéo pour montrer le problème à la municipalité. Après avoir tourné la vidéo, je l'ai montré à mes collaborateurs locaux et à la municipalité. Et celle-ci a ensuite ramené de l'eau. C'était dans ses obligations de le faire.
Pourquoi est-ce qu'il y avait tellement besoin d'une arrivée d'eau dans ce cimetière ?
Il y a une coutume en Inde, après avoir enterré les cadavres, de laver ses mains et son visage et quitter le cimetière. C'est pour cela qu'on a besoin d'eau.
Amol, qu'est-ce que Video Volunteers vous a apporté en termes de formation, en termes de matériel ?
Lorsque je dois filmer quelque chose, je contacte Video Volunteers et ils me guident par téléphone. Ils m'expliquent comment je dois tourner et comment je dois monter pour faire la vidéo. Ils nous ont fourni une caméra. S'il y a quelque chose à filmer, on peut tourner avec.
Depuis combien de temps vous travaillez avec Video Volunteers et combien de vidéos vous avez tournées ?
Je travaille depuis 8 ans pour Video Volunteers et j'ai fait à peu près 50 à 60 vidéos. Video Volunteers est mon travail principal. Si j'avais l'opportunité de faire des vidéos pour d'autres grandes entreprises, j'aimerais bien le faire. Mais je ne compte pas arrêter ma collaboration avec Video Volunteers. Cela resterait un travail à temps partiel pour moi.
On en profite pour se balader un petit peu entre les tombes de ce cimetière chrétien, vérifier l'impact qu'ont eu les vidéos sur le lieu. On voit qu'il y a bien un tuyau d'arrivée d'eau qui a été tiré jusqu'ici. Et l'eau coule bien dans les robinets.
Je pense qu'on a vraiment une bonne solution. Enfin, on voit qu'il y a un problème en Inde, que les histoires des endroits ruraux, ils n'arrivent pas à la télévision. Il n'y a pas de système pour sortir des histoires des endroits vraiment très éloignés. Et je pense que nous, on a une solution parce que c'est beaucoup, beaucoup moins cher d'apprendre à faire des vidéos soi-même aux gens des villages que d'envoyer un reporter de Delhi. Pour envoyer un reporter à Delhi pour tourner une histoire, ce sera, je ne sais pas, $2,000. Mais pour que les gens puissent le faire soi-même dans leur village, c'est beaucoup plus économique comme un modèle de news. Alors ça me déçoit quelquefois que les télévisions ne comprennent pas ça. Mais aussi, je pense qu'on doit penser un peu au futur. Et le futur, ce serait peut-être pas la télévision, ce serait plutôt l'Internet.
Et l'Internet dans les campagnes indiennes, c'en est où ?
Pour nos community correspondents, ils ne savent pas ce que c'est l'Internet. Ils n'ont même pas les téléphones, quelques-uns, même pas l'Internet. Mais je pense que ça va changer un jour. Enfin, maintenant, on a un homme qui nous appelle une fois chaque semaine du haut d'un arbre dans son village. Parce que ça, c'est le seul endroit qui a de réception. Mais ça va changer.
Quels sont les objectifs et les grands défis qui attendent Video Volunteers dans les années à venir ?
Nous, on voudra qu'il y ait dans chaque district de l'Inde qu'on aura un community correspondent. Alors, on veut aller de 170 jusqu'à presque 700 community correspondents. Comme ça, on saura qu'il y a vraiment une média alternative, une média des gens communautaires.
L'Atelier des médias, une web émission participative pour la communauté des nouveaux médias. Médias du monde, du monde, du monde, du monde.
Volunteers, la voix des oubliés de l'info en Inde. C'était un reportage de Combastin et Laurie Chanty, mixé et réalisé par Simon De Creuse. La version longue, des liens, des informations supplémentaires et des photos sont à retrouver sur la page d'accueil de l'atelier des médias, atelier.rfi.fr. Et bien entendu, vous retrouverez une version sur le site rfi.fr. Bonjour Francis Pisani.
Bonjour Ziane Mahalouf.
Comment ça va ?
Très très bien. Et toi ?
Très bien, merci. Francis, tu veux nous parler aujourd'hui du 5e anniversaire du iHub de Nairobi. Raconte-nous.
Écoute, comme beaucoup de nos auditeurs le savent, le iHub est un des lieux phares des innovateurs de toute l'Afrique. Il a été lancé par l'équipe créatrice d'Ushaidi, le logiciel de cartographie participative qu'on utilise maintenant dans le monde entier, notamment après une catastrophe, pour signaler aussi bien les lieux à problème que ceux où l'on peut trouver des secours. En ayant assez de se réunir dans des cafés, l'équipe fondatrice décida en 2010 de se doter d'un centre équipé de lignes à haut débit et d'y réunir leurs copains. Espace de coworking où se croisent individus travaillant sur un projet, petites entreprises et tous les geeks et entrepreneurs du coin, le iHub compte plus de 16 000 membres, dont une bonne partie vivent hors du Kenya. Il a donné lieu à la naissance de 150 start-up et s'est doté d'un centre de recherche. L'immeuble dans lequel il est installé héberge d'autres initiatives, dont le M-Lab, incubateur pour les innovateurs en téléphonie mobile.
Qu'est-ce qui explique pour toi une telle réussite ?
Le lieu a bénéficié de fonds de la fondation Pierre Omidyar et aussi du soutien du gouvernement. Mais le secret du iHub n'est pas là. Ce qui compte, selon Tosh, le responsable que j'ai interviewé sur place en 2011, c'est, je cite, « d'avoir à portée de main des individus brillants, partageant les mêmes intérêts, ayant la capacité de développer des sites web, des applications mobiles ou du design de qualité. Nombre de belles choses sortent des conversations qui se tissent au hasard. » Un des membres de l'équipe initiale, Eric Hersman, vient d'écrire « Une des clés de l'avantage compétitif du Kenya se trouve dans la connectivité de la communauté. » Dans un autre billet de son blog, il explique que ça fournit un élément fondateur pour les villes et les pays qui essayent de développer une communauté technologique signifiante et dynamique.
Est-ce que tu crois qu'il veut dire par là que le iHub peut avoir une influence sur la ville de Nairobi dans son ensemble ?
Je le crois profondément. Nairobi est aujourd'hui considérée comme la ville la plus intelligente d'Afrique et le think tank new-yorkais Intelligent Community Forum vient de la classer 10e au niveau mondial. La bonne volonté du gouvernement et l'apport financier d'une fondation internationale ont beaucoup compté, mais le cœur, c'est bien la communauté. Selon Hersman, ça aide d'avoir un espace digital centralisé où poser des questions, émettre des opinions et trouver des réponses. Mais nous constatons également que les espaces physiques de rencontre sont une autre façon d'accélérer la connectivité nécessaire à la croissance. Je crois, en ce qui me concerne, que nous pouvons en tirer un enseignement. La dynamique permettant à une ville de devenir plus intelligente tient peut-être plus encore aux communautés et aux start-up qu'aux très grosses entreprises.
Et comment tu vois l'impact de la construction de Kanzala, ville high-tech projetée par le gouvernement kenyan à l'horizon 2030 ?
Et la question est compliquée, elle est de savoir si Kanza marginalisera la communauté du iHub ou s'il saura lui trouver sa place. Les énormes projets de ce type, comme Skolkovo dont j'ai déjà parlé, qui se trouve près de Moscou, font bien dans les plans à long terme d'un gouvernement, mais n'arrivent jamais à créer la vraie connectivité communautaire dont parlait Hersman. Les gouvernements peuvent aider les communautés innovantes indispensables aux villes intelligentes. Ils peuvent aussi les étouffer avec de bonnes intentions. Et c'est sans doute à ça qu'il faut faire très attention.
Merci Francis, je rappelle qu'on peut retrouver toutes tes chroniques sur ton blog de l'Atelier des médias. On peut aussi te lire sur francispisani.net ainsi que sur les sites de l'Opinion et de la Tribune. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine Ziad.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur internet
http://atelier.rfi.fr.
C'était l'émission numéro 375 de l'Atelier des médias proposée par Marie-Catherine Beuth, Francis Pisani, Manon Mella, Mélissa Barra, Dilette Sadawi, Jules Nardouek, Raja Yahyaoui, Simon De Creuse et Ziad Malouf. Merci à Com Bastin et Laurie Chanty pour leur reportage. N'hésitez pas à nous suivre, nous lire, nous contacter sur Twitter, Facebook, atelier.rfi.fr, mondoblog.org, libiablog.org et arablog.org. Notre podcast est disponible également sur toutes les applications dédiées. Nos sujets en version longue sont à retrouver sur SoundCloud. Merci pour votre écoute, vos réactions, vos encouragements. Salut à toutes et à tous.
C'est fini ou c'est pas fini?
Ah ouais, les bonus.
Les bonus.
Ben, ça continue sur Internet.